Frères et sœurs, ce temps que nous avons mis à part, il nous est donné pour déposer nos tumultes, nos soucis et tout ce qui fait l'agitation de notre quotidien. C'est le temps du silence, ce silence qui honore notre être intérieur, là où nous sommes en vérité, là où nous pouvons entendre de façon décisive une parole capable de nous faire vivre. Une parole qui nous dit, par la bouche du prophète Osée, « Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je parlerai à ton cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. » En ce jour-là, dit le Seigneur, mon nom sera amour, et je ne saurai plus m'en donner d'autres. Je m'attacherai à toi pour toujours, par la justice et par le droit, par la tendresse et par l'amour. Je m'attacherai à toi pour toujours, et toi, tu connaîtras mon nom. Présentons-nous ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Le Seigneur, avec le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, et la nuit l'explique à la nuit. Et ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Mais leur harmonie apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a planté une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. Oui, la loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend le sage naïf et il rend le naïf sage. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Ses règles sont vérité, elles sont toutes justes, et elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, et plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre et innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et que les murmures de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, toi mon rocher et mon rédempteur. Amen. Alors pour reprendre l'amplitude de cette louange qui se veut à la taille de l'univers, nous chantons le psaume 24. Je vous invite à vous asseoir pour que nous nous mettions à l'écoute de la parole de Dieu, notamment de ses attentes à notre sujet. Voici les ambitions du Seigneur à notre égard que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des braises de lumière sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ce catalogue d'attitudes remarquables, quasi inhumaines, nous ne pouvons que faire le constat de nos manquements. Mais nous pouvons les présenter devant Dieu sans en être accablés. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons refusé d'être tout simplement un homme, une femme. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour un Dieu, où nous avons voulu posséder les gens et les choses, où nous avons pris notre prochain, notre frère, pour un de nos serviteurs. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour les maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous parler. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons invoqué ton nom en vain, toutes ces fois où nous avons transformé nos propres opinions en paroles d'évangile. Pardonne-nous et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité avec toutes ses limites que nous deviendrons des hommes et des femmes de paix, de justice, et de liberté. Amen. Nous nous levons pour recevoir le pardon du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, voilà ce qui nous est dit, voilà ce que Jésus nous dit. Celui qui écoute ma parole, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Par la puissance de son amour, le Seigneur nous a délivrés du péché. Que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs. Que sa joie rayonne en nous à toute occasion. Chantons-lui notre reconnaissance. relevés de notre dignité d'enfant de Dieu par son pardon, par son plein pardon, nous pouvons confesser notre foi. Éternel, qui ouvre mon nom sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur et sur ma peur, c'est quand même à toi que je peux dire « je crois ». Oui, je crois que tu es la source et l'origine de toute chose. Qu'en toi, la vie prend l'élan d'une naissance et que c'est ainsi que je peux t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de ta tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité et que par lui, toute rencontre peut devenir une révélation de ta présence. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et qu'il passe entre nous et par nous sur les ailes de l'amour et qu'ainsi nos pas sont plus légers. Oui, Éternel, toi qui ouvres mon nom sur ma tiédeur et sur ma peur, toi qui ouvres mon nom sur ma foi qui cherche ses mots, parce que tu es et parce que tu donnes sans compter, je peux oser dire « je crois ». Amen. Je vous invite à vous asseoir. Cette fois-ci, nous allons commencer le texte des Écritures par le Nouveau Testament, de brefs extraits, d'abord dans la première épître de Jean au verset 4, au chapitre 4, pardon. Nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et un deuxième texte, toujours dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Mais Pierre lui dit, « Oh Seigneur, moi je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir avec toi. » Alors Jésus lui répond, « Oui, Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » Voilà, sur cette note de trahison, nous allons chanter le cantique 119, les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre au mieux la parole du Seigneur pour nous. Souffle brûlant de mes origines, je t'attends et je te cherche. Toutes les fenêtres de mon âme voudraient pouvoir s'ouvrir. Toute la réalité de mon existence voudrait te recevoir. Toi, infime palpitation au plus noir de mes souterrains. Je te désire et je t'attends de toutes les fibres de mon être. Toi, caresse imperceptible au plus vif de ma blessure. Je t'appelle, je te crie famine. J'ai soif de toi, ma terre craque et ma vie s'étiole sans toi. Alors par ton esprit, bénis-nous, comble-nous d'éternel amour, toi le consolateur, le défenseur, esprit vivifiant de Dieu, tout en tous. Sois notre vie. Et affûte notre disponibilité à ta parole. Qu'elle soit une lampe dans nos obscurités, et une lumière pour nos pas. Le texte que nous allons méditer ce matin, il nous vient du Cantique des Cantiques. Alors c'est un long poème qui a son rythme, ses périodes et qui sont très longues. Et c'est pourquoi nous allons prendre deux extraits. Le premier extrait, c'est au chapitre 3, les cinq premiers versets. Et le deuxième extrait, sur lequel nous allons plutôt approfondir notre méditation, c'est le chapitre 8, du verset 5, la deuxième partie du verset 5 au verset 8. Alors il s'agit d'un dialogue, une fois c'est la fiancée et d'autres fois c'est le fiancé qui lui répond. Sur mon lit, au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche mais je ne le rencontre pas. Alors il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville. Dans les rues et les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Ils me rencontrent, eux, les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, vous l'avez vu ? À peine les ai-je dépassés que je rencontre celui que j'aime. Je le saisis et je ne le lâcherai pas, que je ne l'ai fait entrer chez ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Et lui répond, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant son bon vouloir. Et elle, sous le pommier, je te réveille, là où fut enceinte de toi ma mère, là où fut enceinte celle qui t'enfantera. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car fort comme la mort est amour, inflexible comme enfer est jalousie. Ces flammes sont des flammes ardentes, un coup de foudre sacré. Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Si quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, à coup sûr, on le mépriserait. Voilà, l'amour, dans la tradition et dans la traduction la plus courante, l'amour est fort comme la mort. Cette affirmation qui est perdue dans un chant d'amour à deux voix, enfin un chant d'amour d'une sensualité brûlante, qu'on lit d'ailleurs chaque vendredi soir dans les synagogues, eh bien, cette affirmation a retenu mon attention, pas tant pour son sérieux, quasi métaphysique, que parce que ma langue fourche systématiquement lorsque je lis cette affirmation. Quelque chose en moi veut entendre que l'amour est plus fort que la mort. Alors cette torsion involontaire du texte n'est pas seulement l'effet des chansons d'amour plus ou moins niaises qui me restent en tête. Je crois que, comme le dit l'auteur d'un énième livre sur le mariage, je crois que moi aussi j'appartiens à mon temps, fait selon cet auteur, d'un croisement de futilité et d'intransigeance qui nous rend volage par goût de l'absolu, parce que nous attendons tout de l'amour, et l'amour pour nous est devenu la forme laïque du salut. Alors ajoutons en plus à cela que ma foi au Dieu qui se définit comme l'amour et qui triomphe de la mort à la croix n'arrange pas les choses. C'est sûr que quelque chose en moi, un automatisme sur ma langue et dans ma conscience, donnerait plutôt la version « l'amour est plus fort que la mort ». Alors à force de s'en réclamer de ce verset et à force de le déformer, il devient une forme d'incantation naïve et à la limite écœurante. L'amour est plus fort que la mort. Alors on voit une de ces déclinaisons qui, de l'amour qui résout tout, c'est qu'il faut aimer. La seule façon de faire barrage aux puissances de mort qui travaillent notre monde, ben on le sait, c'est de s'aimer. On n'aurait pas toutes ces horreurs si on était capable de s'aimer. Alors certes, il faut s'aimer. Mais l'amour comme slogan, surtout dans les lieux faits pour ça, c'est écœurant, c'est presque insupportable. Et les chrétiens spécialistes de la religion d'amour sont aussi ceux qui font passer à l'amour de sales moments. N'allons pas croire qu'ils sont les seuls à tomber sous le coup de la contradiction dans ce domaine. Vous savez, tous les lieux où on se bat pour la justice, pour la guérison, pour le bien de l'humanité, sont aussi des laboratoires à dérive infernale. Les syndicats, les ONG, etc., on le sait maintenant, dans leur organisation interne, ne sont pas au-dessus de toutes ces dérives. Alors dire que l'amour est plus fort que la mort, c'est précisément s'exposer à une imposture verbale. C'est, comme dit le prophète, se faire bouche à mensonge. Alors, tenons-nous-en au texte du Cantique des Cantiques. L'amour est fort comme la mort, et c'est vrai. C'est lui qui fait barrage aux puissances capables, jusqu'en nous, de nier l'autre. Lui seul est de taille à se mesurer aux ruses de la mort. Et quand je dis la mort, j'entends pas tellement celle qu'on rencontre au bout d'un parcours de vivant, c'est-à-dire la dernière, mais plutôt celle qui environne notre vie à chaque instant, celle même qu'on porte en nous et avec laquelle on peut facilement pactiser. L'amour et la mort, on peut dire, sont en mesure de se toiser. Ces deux-là sont même faits pour se mesurer, et paradoxalement, ils sont faits pour s'accorder. Tout d'abord parce que l'amour est aussi impérieux que la mort. Contre cette force qui s'impose, on ne peut pas grand-chose. D'ailleurs, comme pour la mort, il n'est pas bon de provoquer l'amour avant qu'il ne le désire. Lorsque l'amour se présente à nous, lorsqu'il est là, vouloir s'y soustraire, résister à son appel, c'est comme passer à côté de soi. C'est comme passer à côté de sa propre vie. Comprenez bien dans cet appel aussi bien l'amour entre deux êtres que l'amour venu de Dieu et qui nous pousse vers les autres. Alors dans les deux cas, il en va de notre identité de le laisser venir à nous et de l'accueillir. Et souvent, il prend l'allure de ce que certains appellent le destin, mais que nous appelons la vocation. Oui, comme la mort, l'amour est exigeant. Il prend tout de notre personne. Et comme pour la mort, l'amour épuise nos tentatives d'explication. C'est une donation qu'on ne peut ni s'offrir, ni payer, ni mériter, et qui reste un mystère insoluble. D'ailleurs, vous entendez bien, si quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, à coup sûr, on le mépriserait. Ensuite, l'amour est fort comme la mort, car ça, quand on aime lire, quand on a un goût pour les films et les choses littéraires, eh bien, on sait que les obstacles, les empêchements, les contrariétés nourrissent l'amour. Tout ce qui cherche à le mettre à l'épreuve finit par lui offrir des preuves. Les ressorts romanesques ou les règles de la tragédie classique partent de ce paradoxe. Et que ce soit les obstacles extérieurs ou même les tourments intérieurs, s'ils n'atteignent pas la nature de l'amour, ils le renforcent et ils lui donnent même ses lettres de noblesse, son caractère d'absolu. On le voit de façon plus radicale encore dans l'amour que Dieu nous porte. Rien ne peut le décourager, pas même l'échec de ses tentatives d'approche et pas même notre rejet. Pas même l'enjeu de notre rejet, c'est-à-dire la mort de son fils. Et c'est là que la langue fourche le plus volontiers et qu'on dit que l'amour est plus fort que la mort. Il faut bien l'avouer, on commence par le vouloir pour soi et on finit par s'en croire capable. On dit « avec toi je suis prêt à aller en prison et même à la mort » comme Pierre, quelques heures avant de le trahir. Même si tous tombent, moi jamais. On voit des ailes nous pousser à aimer, à faire fructifier notre amour, à donner ce qu'on reçoit avec la conviction que rien ne le contestera jamais. Notre amour est même établi dans sa certitude, dans son autosuffisance, pour ne pas dire dans sa présomption. Et alors, dans une poussée d'orgueil, on peut même aller jusqu'à reprendre les autres, à les rappeler à cette vérité, et à leur dire « mais il suffit d'aimer !» L'amour devient la loi qui résume toutes les lois. C'est un principe sans réplique. Or, c'est précisément là que la mort prend sa juste place. Elle révèle l'ambiguïté de nos élans. L'amour, même dans son volontarisme le plus vertueux, n'a sûrement pas le dernier mot. Et il peut être défait d'un seul trait. Paul le disait bien, « Je peux distribuer tous mes biens aux affamés, je peux livrer mon corps aux flammes. S'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. » Alors nos principes, nos bons sentiments, nos résolutions sont anéantis par la lucidité de Paul. Les sciences qui sondent les méandres du psychisme humain le disent autrement. On nous conseille, il y a des livres pour ça, « Aimons moins pour aimer mieux. » Car on peut faire tellement de mal aux siens au nom de l'amour. On doit bien se rendre à ce constat. Dans les affaires d'amour, ce n'est pas l'amour qui a forcément le dernier mot. Car la mort met sans cesse l'amour au défi. Au cœur de nos amours, la mort, cette puissance d'anéantissement, conteste à l'amour sa prétention à vouloir tout résoudre, tout réconcilier, tout absoudre, tout récapituler. Dans le domaine réservé de l'amour, la mort travaille à discréditer l'amour. Elle peut nous pousser jusqu'à défigurer l'humanité de l'autre que pourtant on aime. C'est un combat singulier qui se livre entre ces deux-là, que tout oppose en apparence. Il y a une proximité entre les deux, comme nous l'avons dit dès le début, et cette proximité est un risque. Et il suffit d'un rien pour que les places soient inversées, pour que l'amour soit mortifère et que la mort soit aimante. Tout d'abord parce que l'amour peut prendre une place qui n'est pas la sienne, ou plutôt parce qu'on peut lui faire tenir une place qui n'est pas la sienne, par l'idéalisation ou par l'absolutisation dans laquelle on le tient. Or, l'imaginaire amoureux, comme l'imaginaire chrétien, reste travaillé par l'ambiguïté du cœur et par l'obscur qui nous habite. On le sait ça, après les émois juvéniles, après les embrasements des débuts, notre amour est exposé à l'éclairage d'une plus grande lucidité. Et alors, c'est le temps de la déception, où on remplace les sentiments émoussés par une fidélité de principe, une fidélité de survie souvent. Notre identité n'est-elle pas dépendante de notre foi, de notre alliance avec l'autre? Mais les digues de la bonne volonté peuvent céder. Et comme le prophète Jérémie, on se sent floué. Et ça, on se sent défait. Et ça, on peut le dire à Dieu. Tu m'as séduit. Tu as abusé de ma naïveté. Tu m'as violenté. Oui, voilà venu le temps des désillusions. Des illusions aussi profondes qu'avaient été élevées nos aspirations à nous donner. C'est le temps de la déréliction où les engagements, le parcours réalisé même, n'a plus aucun sens, plus aucune lisibilité à nos yeux comme aux yeux de nos proches. Certes, on peut alors se résoudre à aimer quand même, malgré tout. Mais c'est de la pitié ou de la piété. Et c'est peut-être même la recherche égoïste de sa propre cohérence. Ça peut même être un don encombrant pour l'autre, dont le cœur n'est pas dupe. Ça peut aller jusqu'à l'aliénation du pardon qui endette et qui écrase l'autre d'une double culpabilité. Bon, le recensement des dérives de l'amour est interminable. L'amour peut prendre des formes odieuses qui vont de la bonté forcée à la gentillesse convenue, en passant par le dévouement pesant ou le sacrifice par culpabilité. Et c'est ainsi que l'ennemi, la mort, l'ennemi n'est plus extérieur à l'amour. L'ennemi de l'amour s'est fait intérieur à l'amour. L'amour est lui-même menacé du dedans. Il souffre de lui-même, cet amour. L'amour souffre de l'amour, on pourrait dire. La ligne de partage entre l'amour qui aime vraiment et gratuitement et l'amour qui se cherche, qui est avidité pour soi, gentiment prédateur, souterrainement égoïste et vindicatif sous des apparences de foi et de dévouement, eh bien cette ligne de partage traverse tout amour, tout amant et tout aimé. Cette ambiguïté tient à notre extrême précarité de mortel et aux réflexes que nous mettons en œuvre pour nous rassurer et pour l'oublier. C'est en rigueur de terme ce qu'on appelle le péché. À tout moment, l'amour peut se détourner en logique du pire et d'autant plus efficacement qu'on élude en soi la dimension de l'obscur et de l'ambiguïté. Mais si l'amour survit à cette lucidité, alors là, on peut le dire avec le Cantique des Cantiques, il est fort comme la mort. Car c'est la mort qui l'éveille en le révélant en négativité. C'est elle, en sa menace, qui exige vigilance et sursaut de vie. L'amour est fort comme la mort, car il passe par le risque de la mort. Il la regarde dans les yeux. Il n'élude pas sa présence. Mais alors, c'est un amour fort de son humilité, car il suffit de si peu, de presque rien pour le défaire. Il ne s'appuie plus que sur lui-même, il ne revendique rien d'autre que d'être là, et parfois même simplement dans la souffrance. Il accepte de se tenir au cœur des ténèbres et de passer par l'épreuve de la mort. Il se fraye un chemin au cœur des crises de l'existence. Il est toujours là, en force suffisante, pour que le travail de désillusion ne soit pas mortel. Il sait même que la mort peut lui être bénéfique. Ainsi, et à ce prix, il pardonne au malheur d'aimer moins. Il pardonne au malheur d'être mal ou insuffisamment aimé. Il pardonne à l'autre son malheur d'être hors de l'amour, car il sait qu'il ne peut pas forcer l'autre à l'aimer. Oui, l'amour est ainsi fort comme la mort. Car c'est un humble enfantement à un au-delà qui, comme la mort, nous ouvre à une dimension autre, inconnaissable tant qu'on ne l'expérimente pas. L'amour meurt à un monde d'autosuffisance où on se cherche dans un miroir idéalisant. Il meurt à un monde d'emprise et de maîtrise, même lorsque cette maîtrise est le devoir d'aimer ou la sagesse éthique, qui respecte l'autre, mais qui reste quand même trop courte dans une relation d'amour. Une relation d'amour qui exige tout de soi. Oui, l'amour meurt pour déboucher sur une manière d'être nouvelle, libre, dégagée des attentes qu'on ne peut satisfaire, libérée du désir de changer l'autre, de lui donner son bonheur. Oui, le voilà, à présent, fort de sa faiblesse, parce que cet amour-là, il demande, il quémande. Il dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Oui, que désormais ta quête de bonheur, ta recherche d'amour porte cette marque royale, celle de ton Dieu. Que l'empreinte de cet amour royal à mort oriente le bras de ton agir. et qu'il touche la fine pointe de ton cœur désireux d'aimer. Cet amour que Dieu te demande en mendiant royal, il est là dans tes contradictions. Et crois-le, jamais il ne cassera, jamais il ne disparaîtra, car il est fort comme la mort. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 254, les quatre strophes. Je vous invite à vous asseoir pour entendre les maigres annonces, et je dirais même la maigre annonce, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc nous sommes en vacances et Marc va assurer l'étude biblique de mercredi, de 12h30 à 13h30, et poursuivre ce thème des visites. Il va reprendre ce thème en parlant des visites qui sont indispensables au ministère de Paul en étudiant une lettre, je crois que c'est à Timothée, je crois, voilà. Donc, et puis dimanche, c'est Marc qui assurera le culte. Pas d'autres nouvelles je... Voilà. Alors c'est le moment de l'offrande. Nous prions. Seigneur, nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous voulons croire qu'il est apte à transformer les vies. C'est pourquoi nous voulons te confier les personnes de la paroisse qui se portent mal. Toi, tu les connais. Nous voulons aussi te confier celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler ta bienveillance sur eux pour que le désespoir ne l'emporte jamais. Fais-leur signe à ta manière, afin que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Et si ce signe passe par nous, inspire-nous. Nous voulons aussi te confier nos amis, nos familles, ceux qui nous sont chers. Nous faisons nôtres leurs joies et leurs peines. Éclaire nos relations avec eux et allège les difficultés que personne ne peut porter à leur place. Et dans la ville où nous habitons, toi, tu sais les drames cachés, les existences fragilisées, les vies abîmées. Tu sais chaque instant de ces personnes qui souffrent en silence. Tu sais la haine de soi qui rend agressif et méchant. Tu te tiens sous le poids de ces détresses cumulées. C'est pourquoi nous te confions celles et ceux qui ont le cœur assombri, qui sont marqués par la violence, par l'abandon ou la dépression. Donne-nous ta sensibilité pour savoir les rencontrer. Aide-nous à garder confiance dans l'humanité et viens agir dans les cœurs. Que ton amour soutienne, reconstruise, enthousiasme ces femmes et ces hommes si lointains et si proches à la fois. Oui Seigneur, nous faisons le pari que la vie pour toi est un miracle. Nous avons mis notre confiance en toi. C'est pourquoi nous t'adressons sans réserve les paroles que ton Fils Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et pardonne-nous pour ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur toi en t'accordant sa grâce. Que l'Éternel te garde dans son amour et que son amour soit ta paix. Amen.